Hello, je suis Sarah et je te souhaite la bienvenue sur le podcast du Club des Daronnes. Le podcast qui célèbre les Daronnes d'aujourd'hui. Seul ou accompagné d'invités, je te donne des idées, des outils et des réflexions pour kiffer ta vie de maman sans stress et sans injonction. Ici, on parle de tout. Du drama de ton kids parce que tu as ouvert son yaourt au baby clash dont tu n'oses parler à personne, en passant par les choix pro, le temps pour soi, la famille qui s'agrandit, l'héritage familial et bien d'autres sujets. Bref, tu l'as compris, ici on est entre copines, on se dit les choses, alors attrape ton capou, ton plaid et installe-toi, on va s'envoyer des paillettes, du love et de la vraie vie de Daronne. Cette semaine, j'accueille Tania. Tania est devenue maman à 20 ans, pendant ses études dans une grande école. C'est déjà impressionnant de mener de front ses études supérieures et ses premiers pas dans la maternité, tout juste sortie de l'adolescence. Mais en plus de ça, Tania est entrepreneuse et elle se prépare à faire un deuxième Master 2 et un doctorat. Et tout ça avec sérénité, avec une maturité et une vision de la vie qui, je pense, va grandement t'inspirer, chère Daronne. Bonjour Tania!
Hello, hello!
Alors, je suis ravie de te recevoir, ça fait un moment qu'on se parle sur Instagram, et toi, tu as une situation un peu particulière, en tout cas, tu as beaucoup de casquettes dans ta vie, que moi je trouve très impressionnante, c'est pour ça que je t'ai invitée, je ne spoil pas encore, je vais te laisser le dire, c'est pour ça que je t'ai invitée dans le podcast, parce que je trouve que la façon dont tu gères toutes les facettes de ta vie est hyper inspirante, et j'avais envie qu'on en parle. Du coup, je te laisse la parole, je te laisse te présenter, me dire qui est ta famille et surtout quoi, toi, comment tu te sens au quotidien et toutes ces multiples casquettes que tu as.
Ouais, donc j'ai pas mal de casquettes en effet, donc je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans et demi, en couple depuis 4 ans et demi avec mon conjoint qui a mon âge aussi, donc on a 22 ans et donc en plus d'être maman, je suis étudiante en relations internationales à Sciences Po Strasbourg et je suis aussi entrepreneur. Dans l'organisation. Voilà.
Ce qui est quand même pas mal. Étudiante, maman, entrepreneur. Tu dis ça en mode voilà, mais en réalité, moi, je trouve ça assez dingo parce que quand tu me l'as dit, je me suis dit, moi, à 22 ans, pas forcément la personne la plus brillante et la plus mature d'Europe de l'Ouest. Donc, je trouvais ça assez incroyable ce que tu faisais. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton histoire. On va reprendre dans l'ordre. De ta rencontre avec plus 1 à ta création d'entreprise, tes études, ton master 2, etc. Et comment tu gères tout ça? Alors, est-ce qu'on peut reprendre dans l'ordre? À quel âge et où et quand as-tu rencontré ton mec?
À 18 ans, je suis acceptée à Sciences Po Strasbourg. Donc moi, je viens du sud de la France, de Marseille, et donc je suis acceptée à Sciences Po à 18 ans. Donc je déménage dans cette grande ville à 800 km. Et dans un concours de circonstances, je rencontre mon copain actuel et on se met ensemble très rapidement. Et puis on s'installe ensemble au bout de quelques mois, juste avant le Covid.
Ok, le grand test. Donc vous êtes tous les deux étudiants à Sciences Po, c'est ça l'idée?
Non, lui il est dans le bâtiment. On a le même âge.
Vous vous rencontrez, coup de foudre, c'est l'amour, on emménage ensemble, c'est le Covid et paf, test de grossesse positif, que se passe-t-il?
Thèse de grossesse positive, donc je suis en début de deuxième année à Sciences Po, donc c'est une année qui est assez intense, où on a à peu près 35 heures de cours, plus tout le travail perso à préparer à côté, donc j'apprends que je suis enceinte à peu près une semaine avant les partiels, donc un peu comment on va faire, donc je contacte tout de suite l'école, je leur dis voilà, je suis enceinte, surtout que la troisième année doit se passer à l'étranger, donc je leur dis quelles sont les options en fait, parce que je vais pas partir, j'avais une date de terme qui était pour fin août, donc je peux pas partir début septembre à l'étranger, quoi, c'est pas envisageable. Et donc sur ça, j'ai une équipe éducative de Sciences Po qui a été hyper réactive, et je les remercie encore. Et j'apprends que je suis enceinte, voilà, une semaine avant les partiels, je passe mes partiels, alors c'est lunaire, parce que le matin, je suis à sage-femme, l'après-midi, j'ai une épreuve de droit européen, enfin, tout à fait lunaire, on va dire. Et mon année se passe, j'ai mon année avec mention, alors que la première année passe aussi bien. Et j'accouche fin août 2021, juste avant ma troisième année, donc que j'ai pu faire en distanciel grâce, entre très gros guillemets, au Covid, parce qu'on est plusieurs à pas avoir pu partir à l'étranger à cause du Covid. Et donc, j'ai pu avoir des cours en distanciel cette année-là.
Donc, tu fais ce test de grossesse juste avant les partiels, est-ce que tu te doutais, est-ce que quand tu fais ce test, t'as quand même tu sais que ça va être positif?
Je m'en doute. J'ai quand même pas mal de soupçons qui me poussent à faire ce test, quoi. J'ai quand même pas mal de symptômes, nausées, retard, etc., quoi. Donc je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas dans la normalité, en tout cas. Donc on va quand même vérifier, quoi.
Et alors, au moment où tu découvres que c'est positif, qu'est-ce que tu ressens?
Pas mal de sentiments. Il y a quand même énormément de joie d'être enceinte, etc. Donc beaucoup de joie et pas mal quand même, j'irais pas de l'angoisse, mais d'incertitude, d'un sentiment de comment est-ce que je vais faire, mais en même temps une très grande sérénité, l'impression que voilà, c'est une vérité qui est là et qui est très positive à ce moment-là et qui l'est toujours pour moi. Et donc ouais, c'est cette ambivalence de explosion d'émotions d'un coup, et je vais avoir du mal à mettre des mots sur tout ce qui s'est passé à ce moment-là et dans ma tête, etc. Et notamment, c'est un cours de sociologie du changement que j'aurai en troisième année juste après mon accouchement, qui me permettra de me dire, voilà ce que j'ai ressenti, et c'était hyper positif, en fait. Même si sur le moment, je me suis juste dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Et c'était, ouais, un peu d'incertitude, mais beaucoup de joie, en fait, mélangée.
Et comment tu l'annonces à plus, hein, justement?
Je l'annonce tout de suite. Enfin, littéralement, il était à côté, il m'a attendu faire. Comme ça, et comme il savait, il a tout de suite compris, ce qui se passe.
Et lui, du coup, comment il accueille cette nouvelle-là?
Pareil, beaucoup de joie. On était hyper hyper contents et hyper heureux de d'avoir un petit. Bon, à ce moment-là, on savait pas ce que c'était, mais un petit gars.
Donc, il y a aucun moment vous êtes posé la question de le garder, pas le garder. C'était une évidence.
C'était une évidence. Après, forcément, on se pose des questions sur comment est-ce qu'on va faire, mais la volonté était là. La volonté était sans faille à ce moment-là. Elle l'est toujours d'ailleurs. Je dis à ce moment-là parce que voilà, mais avec le recul, ça l'est toujours. J'ai eu aucun regret, par exemple, ou quoi.
Et comment tu l'annonces à ta famille?
Je l'annonce tout de suite à mes parents. Je les appelle en visio. Ils comprennent tout de suite. Dès que je les appelle, ils ont tout de suite compris ce qui se passait. Je sais pas. Il doit y avoir ce alors qu'on est à 800 km, mais il doit y avoir cette relation, tu sais, psychologique des parents, ou je sais pas quoi. Après, forcément, ils avaient aussi ils m'ont donné des conseils, etc. Ils m'ont extrêmement bien accompagnée, d'un point de vue psychologique. Je trouve, après, au bout des 3 mois, j'ai quand même attendu les 3 mois et je me suis déplacée à Marseille pour en prévenir ma famille, les informer, etc., plus en visuel, enfin, de face, quoi. Et dans l'ensemble, ça a été assez bien reçu, puisque finalement, tout le monde avait plus ou moins les mêmes questionnements de comment est-ce que tu vas faire. Mais c'était... Personne ne m'a vraiment jugé, j'ai envie de dire, sur mes choix et mes actes, quoi.
C'est beau parce que c'est hyper soutenant, en fait, de ce que j'entends. C'est finalement, tu vois, parce que quand tu me l'as dit, et je pense que les autres daronnes qui nous écoutent, qui sont un poil plus vieilles que toi, mais toujours aussi fraîches, la première chose, c'est waouh, si ça m'était arrivé, je suis pas sûr que je l'aurais accueilli avec cette joie-là, tu vois, comme tu décris. Je suis pas sûr que j'aurais eu le réflexe, comme tu l'as fait, de contacter Sciences Po en disant voilà la situation, comment on fait. Je suis pas sûre non plus que ma daronne aurait accueilli à bras ouverts une grossesse pendant mes études. Et là, finalement, ce que j'entends, c'est que c'est hyper joyeux, hyper soutenant. Il n'y a pas vraiment de questionnement à part la logistique de « Ok, concrètement, techniquement, tu vas faire comment, quoi ?»
Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment le sentiment a posteriori que j'ai eu. C'est genre, je me suis sentie hyper soutenue, comme tu dis. Puis même, forcément, on m'a posé des questions qui nous ont permis aussi de nous poser les bonnes questions. Sur plein de choses, et on a fait vraiment ce travail en amont, en fait, de réflexion sur l'éducation, enfin sur plein de points qui nous ont permis d'accueillir aussi plus sereinement. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc de très administratif, etc., et que je savais que les études allaient être le point qui allait le plus poser souci. Et donc c'est pour ça que j'ai tout de suite contacté le directeur des études de Sciences Po à ce moment-là, pour lui dire voilà, je suis enceinte, je fais quoi, plus ou moins, comment est-ce que vous pouvez m'accompagner, etc. Et je l'ai contacté genre le 28 décembre et il m'a répondu le 29 décembre dans un long mail, etc. Hyper, hyper positivement, donc c'était super cool.
Bah ouais, c'est canon. Comment ça s'est passé à l'école? Comment ça s'est organisé pour toi? Et comment tes potes de Sciences Po ont reçu aussi la nouvelle?
Ouais, justement, c'est presque ce que je redoutais le plus, j'ai envie de dire. Mais en fait, ça a été assez bien accueilli. Alors, faut savoir que le statut étudiant-parent n'existe pas vraiment. Donc, par exemple, en France, il n'y a pas de congé maternité. Ça n'existe pas pour les étudiants. Tu peux prendre une... Moi, on m'a proposé une année blanche, mais ce que je voulais pas du tout faire parce que je savais que je me perdrais dans la maternité et que c'était pas le but non plus. Y avait cette possibilité justement moi de faire en distanciel. Et après, il y a selon les études, les universités, les écoles, etc., des règlements d'études qui permettent d'avoir un assouplissement notamment de des études, donc sur l'assiduité ou sur des reports d'examen, etc., pour raisons familiales. Donc moi, j'ai pu en bénéficier. Donc par exemple, si mon kid était malade, ben je présentais un mot du pédiatre comme quoi il était malade et que voilà, c'est comme si tu vas au travail. Le seul truc qui est problématique, c'est que ben justement, ben j'ai repris les cours à 6 semaines postpartum parce que ben on m'a proposé justement de décaler un petit peu, mais si je décalais un petit peu, ben ça voudrait dire que j'avais 2 mois de travail à rattraper, ce qui est pas forcément possible à Sciences Po niveau quantité. Et pareil, les moments où le kid dort pas très très bien, ben quand t'es salarié, tu peux prendre un jour off de temps en temps. Ben en tant qu'étudiant, si t'as pas un mot du pédiatre, moi l'année dernière, je pouvais pas prendre un jour off de temps en temps si j'étais épuisée. Donc ben ça m'arrivait d'aller en cours avec 20-30 minutes de sommeil, quoi. Heureusement que j'avais 21 ans. Et les profs, en général, ont assez bien accueilli. Donc, en début d'année, je vais à chaque fois leur dire, voilà, j'ai un enfant, il peut arriver que je sois pas là, ou il peut arriver que je m'en aille en plein milieu du cours, parce que, s'il a 42 fièvres, c'est plus important que le cours. Et ils ont tous extrêmement bien, accueilli les informations, dans l'ensemble. Tous m'ont dit, voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir vers moi. Tous m'ont dit souvent, ouais, je comprends, j'ai un enfant aussi. Donc, c'était hyper, hyper bienveillant. Et justement, ça a été une expérience hyper positive, je trouve, pour moi.
Ouais, et puis tu vois, c'est là quand tu me le décris, je suis presque étonnée que ça soit, et tant mieux d'ailleurs, étonnée dans le bon sens, hein, que ça soit aussi positif, aussi bien accueilli par les profs. Et finalement, tu nous as pas dit comment ça avait été accueilli par tes potes.
Par les profs, ouais, moi aussi j'étais assez surprise. Au début, j'avais toujours un peu peur d'aller leur dire, mais après aussi j'avais ce fait de, enfin, je vous annonce l'info, quoi. Vous pouvez rien faire, l'enfant est là, point barre. C'est juste, en plus, le règlement d'études est fait comme ça, donc c'est pas toi qui décides, plus ou moins. Alors, je leur présentais pas comme ça, mais ils le savaient, surtout qu'à Sciences Po, j'étais la première, manifestement, à avoir un enfant en même temps que des études, donc on savait pas trop quoi, comment naviguer, mais ouais, ça s'est bien passé. Et niveau potes, ben comme dit, c'était le Covid, etc. Je venais à peine d'arriver sur Strasbourg, donc on va dire que j'avais pas forcément beaucoup d'amis sur Strasbourg à ce moment-là, puisque ben voilà, et on avait fait quoi, 6 mois de cours avant le premier confinement, plus ou moins. Donc après, il y a eu le confinement, l'école était fermée, donc en deuxième année, on a été en distanciel. Donc voilà, t'as pas forcément une vie sociale très importante sur place. Après, mes amis, sur Marseille, l'ont accueilli normalement, parce que notre relation n'a finalement pas beaucoup changé avec le fait que j'ai un enfant, puisque j'étais quand même sur Strasbourg, donc j'étais disponible de la même manière une fois que le kid dort le soir.
Donc t'as accouché en août 2021, t'as repris les cours, si je comprends bien, en septembre, fin septembre, c'est ça?
Octobre, ouais, le 4 octobre.
T'es finalement un peu isolée, puisqu'il y a les cours à distance, ta famille elle est à Marseille. Comment t'as vécu, du coup, cette reprise? Comment t'as vécu tes premiers pas dans la maternité?
Alors, j'ai la chance, ma mère a pu se libérer un petit peu et venir habiter sur Strasbourg quelques semaines autour de mon accouchement. Donc, il y avait ce relais-là. Il y avait mon conjoint aussi qui était là. Mais c'est vrai que ouais, c'était hyper isolé. C'était je posais mon kid à la crèche, avant même qu'il puisse aller à la crèche, je le mettais dans son cododo, je faisais mes cours, puis quand il était réveillé, je jouais avec lui, et puis quand il dormait, je travaillais, et puis voilà. Donc c'était une routine qui peut être débilitante quelque part, et j'ai failli un peu me perdre à la fin de l'hiver, et à ce moment-là, j'ai pris quelques semaines pour descendre dans ma famille, pour avoir justement plus de vie sociale.
Ouais, t'as eu un bon réflexe. Pas t'isoler, parce que c'est vrai que ça peut arriver vite au final, étudiante ou pas étudiante, de se dire je suis un peu loin de ma famille, je suis dans une période en plus le Covid, etc., où on se retrouve très isolé, il y a les dépressions du postpartum qui ont explosé à cette période-là, et t'as quand même la présence d'esprit d'avoir ces alertes internes, de dire ok, là, prends mon kids, je prends le train, je rentre à la maison.
C'est ma famille qui a eu ce réflexe-là, et j'ai aussi été très bien accompagnée par ma sage-femme qui était hyper présente, qui m'a suivi toute ma grossesse et dans le postpartum, et qui était hyper présente et qui m'a aussi des fois mis un peu les points sur les i, un peu secouée en mode... Donc j'avais quand même cet accompagnement, parce que moi j'étais tellement dans ma routine, tellement la tête dans le guidon, que je voyais pas ce que je faisais, parce que je gérais bien, j'avais des excellentes notes, j'avais 15 de moyenne à peu près, j'avais un kid qui était assez agréable et tout, et donc je voyais pas que je m'enfonçais. Donc c'est justement mon entourage qui m'a dit là, faut que tu bouges, quoi. Ça m'a permis de rebondir et de me remettre aussi en question sur certains points.
Ah, lesquels, par exemple?
Bah ça va bien résonner, je pense, avec toi. Ça va être tout ce qui est... on peut pas être 100% là pour ses enfants si on n'est pas 100% là pour soi. C'est OK si l'enfant il mange pas tout ses 180 grammes de purée. Enfin voilà, avoir aussi une approche plus chill avec mon fils. Donc il avait que 6 mois à l'époque, hein, mais j'étais un peu overprotective et ouais, je l'ai empêché aussi d'être lui et ouais, c'était ce voilà, ça a fait du bien aussi de souffler, de me rendre compte que l'enfant va pas mourir s'il mange un demi carré de chocolat aux 4 heures, quoi. Bah c'est un peu à peu près un mois dans le sud, donc ça m'avait fait ouais, j'avais vu un peu tout le monde et tout le monde avait donné leur point de vue, mais d'une manière assez chill, posée et surtout pas en mode on sait mieux que toi. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils savent que je supporte pas et que j'aurais très mal supporté encore plus à ce moment-là. Donc dans un mode genre pas des réflexions toute la journée, quoi.
Je reviens sur un point que tu as mentionné un peu plus tôt. Tu parlais de la crèche et du coup, j'ai envie de parler avec toi justement de tout ce qui est ressources financières. En tout cas, comment toi, tu gères financièrement? Parce que c'est vrai qu'on associe quand même pas mal le fait d'être étudiant ou étudiante et fauché.
Alors, faut savoir qu'il n'y a pas d'aide particulière pour les étudiants parents. On va avoir les mêmes aides que les étudiants et les mêmes aides que les parents. Donc, on va avoir la prime d'accueil des jeunes enfants, donc qui est donnée à tous les foyers selon leurs revenus, jusqu'à l'âge de 3 ans d'enfant. Et en tant qu'étudiante, tu as le droit à ce qu'on appelle le CROUS, mais qui est annexé sur 2 ans, les revenus de ta situation d'il y a 2 ans. Donc, ça prenait pas en compte que j'avais un enfant parce que j'avais pas un enfant 2 ans avant. Donc, j'avais ces deux aides et après, j'avais les ressources que me donnaient mes parents dans le cadre de mes études pour quand j'ai eu 18 ans, quand je suis partie habiter à l'autre bout du pays pour faire mes études. Donc, qui couvraient le logement et les ressources, enfin, la nourriture plus ou moins. Et après, mon conjoint travaillait aussi un petit peu et après tu fais un peu plus de concessions, tu vas pas au resto tous les 2-3 matins, etc. Mais je me suis jamais considérée comme une étudiante fauchée. Alors je suis tout à fait d'accord que c'est un gros sujet, les finances en tant qu'étudiant, c'est un gros point assez problématique. J'ai beaucoup d'amis qui en souffrent, mais voilà, moi je me suis toujours trouvée extrêmement chanceuse de ce côté-là. Forcément, je n'avais pas le train de vie qu'un cadre supérieur à sortir au restaurant, etc. Mais j'ai jamais eu à me plaindre, je me suis jamais demandé comment est-ce que j'avais payé le loyer ou quoi. Donc là, sur ce point-là, je suis assez privilégiée, ouais.
Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de développer une activité d'entrepreneuse?
Oui et non. Ça a été il y a une triple logique qui m'a fait ouvrir une entreprise. La première, c'est justement l'envie d'avoir de l'argent d'avoir de l'argent pour me permettre de développer d'autres projets, en fait. Moi, je veux faire de la recherche, je veux faire un doctorat par la suite. Et la recherche, c'est très sous-financé en France. T'es pas forcément beaucoup payé. Et pour financer un doctorat, si t'as pas le contrat doctoral, ce qu'on appelle, il faut quand même avoir des ressources. Et donc, avoir une entreprise me permet de générer ces ressources pour pouvoir envisager un doctorat. Il y avait aussi la volonté de partager ce que je sais. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup aider les autres et enseigner, entre guillemets. C'est pour ça, notamment, je veux faire de la recherche en tant qu'enseignant chercheur. Et aussi, c'est ma maman qui m'a donné l'idée l'année dernière, parce que je lui ai montré mon système d'organisation pour mon mémoire, qui est donc j'avais fait un mémoire l'année dernière, j'en fais un cette année, et qui est hyper poussé. Et elle m'a dit, mais tu pourrais presque vendre ça, c'est impressionnant. Et en fait, ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et voilà.
Oui, ça, parce que on n'en a pas parlé, mais ton entreprise, ton activité, ton side business, c'est à propos de l'organisation. C'est des templates sur Notion pour s'organiser et optimiser finalement son quotidien.
Ouais, c'est un peu plus large, en fait. C'est il y a des templates, mais il y a aussi des accompagnements personnalisés sur une organisation et une productivité, mais qui soit respectueuse de la santé mentale. L'idée d'une productivité, c'est pas forcément de travailler plus, c'est de travailler mieux pour travailler moins, pour avoir plus de temps pour soi.
Du coup, t'as cette casquette d'entrepreneuse, de maman, d'étudiante. Comment ça se passe, cette vie étudiante? Parce que la vie étudiante, il y a les partiels, il y a les cours, mais il y a aussi les soirées, les interactions avec les autres, les stages, les projets de groupe, etc. Comment tu le vis, tout ça?
Je veux dire, ça dépend beaucoup des périodes, parce que ça va dépendre... la vie étudiante, ouais. Alors moi, j'ai plus de partiel depuis la 3e année. L'année dernière, j'avais que des dossiers à rendre, et cette année, pareil, j'ai eu que des dossiers à rendre. Donc, il n'y a pas ce stress juste avant les partiels, t'as le stress toute l'année. mais pas juste avant les partiels. Donc c'est une organisation qui est différente et qui me correspond beaucoup mieux parce qu'on peut prendre de l'avance, ce qui est nécessaire quand t'es parent, parce que c'est le kid est malade, point barre. Donc c'est une organisation qui s'est créée. Après, il y a aussi, comme dit, le soutien de mon conjoint quand même qui est présent, qui est là, qui élève son enfant comme moi, enfin, et donc qui me permet aussi de participer à des conférences ou d'aller voir des amis, etc. Là, notamment demain soir, je vais voir une conférence hyper intéressante. C'est aussi, je pense, un équilibre à trouver et savoir faire des concessions et savoir ce qui est important pour nous. Voilà. Et savoir aussi dire stop, non. Ça, c'est, j'ai eu du mal à l'apprendre, mais dire non aux autres ou dire maintenant tu te fais ton travail. On est un travail de groupe, maintenant tu te dépêches, tu le fais. Et ça, c'est un peu difficile à dire au début, surtout quand on ne veut pas trop s'imposer, mais au bout d'un moment, j'ai des contraintes que certains des autres n'avaient pas forcément. Et il faut apprendre à jouer avec les contraintes des autres aussi.
C'est tout le travail aussi que moi je fais au club d'Adaron, c'est de se dire, il faut pouvoir dire non, même si des fois c'est hyper inconfortable. En tout cas, au début, ça peut être très inconfortable. Il faut décider là où tu veux mettre ton énergie. Et toi, au final, t'as déjà acquis tout ça. Enfin, j'ai l'impression que la maternité t'a fait accélérer sur ce chemin-là, sur décider où tu veux mettre ton énergie et comment, et de faire des choix et de les prioriser.
C'est ça. Mais après, c'est pas non plus, c'est pas quelque chose qui est accompli dans le sens où il y a forcément des retours en arrière selon les périodes. Si tu me proposes 4 projets super cool, je vais avoir quand même du mal à dire non. L'année dernière, alors que j'étais limite sous l'eau, on m'a proposé d'organiser une conférence. Et j'ai pas pu dire non, et genre je suis hyper contente de l'avoir fait, et si c'était à refaire je le referais, y a pas de doute, mais c'est vrai que sur le moment j'aurais pu dire non à d'autres projets pour pouvoir me focaliser là-dessus, parce que résultat j'ai fini par travailler jusqu'à des 2h du matin pour organiser cette conférence qui était hyper hyper enrichissante, mais je travaillais aussi sur d'autres projets à côté qui ne m'enrichissaient pas autant et qui ne m'apportaient pas surtout.
Justement, comment tu dirais que tu l'as réparti ton énergie, comment on fait pour gérer une vie de famille, une vie étudiante et une vie d'entrepreneuse? Enfin, tu vois, moi, je me revois quand j'essaie de développer un side business en étant salarié et en ayant 2 kids et en dormant peu, puisqu'on a des enfants, nous sachons. Je me sentais vraiment épuisée. Toi, c'est quoi tes ressources, justement, pour gérer ça?
Alors, je vais pas te mentir, hein, c'est très compliqué au début. Enfin, au début, on galère. Il y a pas d'autre terme. Au début, donc, j'avais pas l'entreprise. Je galérais beaucoup. Surtout, j'avais un enfant qui dormait pas forcément très bien la nuit, qui était adorable toute la journée, mais la nuit, ça pouvait être des fois assez compliqué. Donc ça m'est arrivé de me pointer en cours à 8h en ayant dormi 25 minutes dans la nuit, tu vois. T'es pas très productif, mais en même temps t'as pas le choix, t'es là. Donc au début c'est savoir être organisé pour avoir suffisamment d'avance pour des fois dire juste aujourd'hui je dors, je peux plus, je dors. Mais faut avoir beaucoup d'avance, faut beaucoup travailler, faut avoir un bon système de travail. Il faut quand même avoir un peu des relais aussi. Faut aimer ce qu'on fait. Il y a pas de secret. Faut aimer ce qu'on fait. Genre mes études, je suis passionnée par mes études. Des fois, je mets des réveils à 23h pour penser à aller dormir. Enfin, donc je pense que ça aussi c'est extrêmement nécessaire parce que sinon, je sais pas pourquoi tu le fais en fait. Savoir pourquoi on le fait, c'est aussi nécessaire. Et après, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, donc cette année, enfin en 5e année, donc cette année scolaire, je me suis dit qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je peux abandonner pour me focaliser là-dessus et comment est-ce que je peux répartir mon temps? Donc j'ai des semaines types que je respecte pas forcément mais qui me permettent justement de naviguer et d'attribuer le bon nombre d'heures à chacune de mes activités plus ou moins. Après aussi cette année j'avais moins d'heures de cours, donc ça aide aussi, hein, j'avais moins d'heures de cours, moins de travail, etc. Et là actuellement ce semestre je suis en rédaction de mémoire, donc forcément j'ai pas besoin de travailler forcément 8h sur mon mémoire par jour, quoi. Surtout que je travaille sur des sujets qui sont pas rigolos.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement c'est si je veux dire oui à ça, à quoi je vais devoir dire non? Enfin moi c'est tout le cœur de mon travail de dire on peut tout avoir, je suis convaincue qu'on peut tout avoir, on peut pas tout faire. C'est-à-dire que oui, on peut avoir une vie d'étudiante ou de salariée et d'entrepreneuse, mais par contre il faut pas se dire je vais avoir une vie d'étudiante qui dit oui à tous les projets, qui est surinvestie dans les assos, et espérer avoir une entreprise à 6 ou 7 chiffres, comme si je ne faisais que ça, comme si c'était mon activité principale.
Ouais, c'est ça. Et puis, il faut aussi savoir se dire que des fois, c'est temporaire, certaines situations, mais en gardant cette temporalité. Pas, ça ira mieux plus tard, mais là, ces 2 semaines-là, je veux finir ça. Et donc, je vais faire une concession peut-être sur ma vie sociale, juste ces 2 semaines-là, mais en ayant une deadline. Pas, ça ira mieux plus tard. Mais par exemple, moi, dans 1 mois, je dois rendre mon mémoire, il faut que ce soit fini, c'est ma priorité numéro 1. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être prendre un peu moins de temps pour développer mon site internet, tu vois. Ça va être aussi ce jeu, en fait, entre les différentes activités, de quels sont les gros projets en cours, quels sont leurs deadlines, et sur quoi est-ce que peut-être que je peux faire une concession. La concession ne doit jamais être faite, selon moi en tout cas, sur sa vie perso, sa vie de couple ou sa vie de famille. C'est ma vision aussi il faut du temps temps pour se recharger. Ben après c'est toi, tu le dis mieux que moi, hein, mais il y a pas de secret. Mais ce matin j'ai commencé ma journée par faire mon sport et par lire un livre parce que j'avais besoin de faire du sport et de lire un livre et que ben j'allais pas être productive à travailler ou à écrire mon mémoire si j'avais des pensées parasites dans la tête.
Et comme tu dis, il faut que ça soit temporaire. C'est ok de se dire là pendant deux semaines, ok, je remets un peu plus d'énergie ou je repriorise, etc. Mais ça ne doit pas devenir le new normal. Ça ne doit pas être ok maintenant mon rythme, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai été aussi assez, j'ai déjà été en burn-out. Je sais ce que c'est aussi, et je sais à quel point c'est pas du tout envisageable et à quel point maintenant que j'ai un enfant, je ne peux plus me permettre cette situation parce que c'est une situation déjà, j'ai pas envie forcément que le kid voit cette situation et donc peut-être s'intériorise et la reproduise quand il sera plus âgé, mais aussi parce que il faut que j'aborde l'énergie pour le kids en fait. Le kids, il a pas demandé à ce que je fasse 15 000 activités en dehors d'avoir un enfant. Et c'est aussi avoir du respect envers lui que d'avoir un minimum d'énergie à lui attribuer. Et pour avoir cette énergie à lui attribuer, je sais que moi, j'ai besoin d'avoir mon énergie et donc de recharger mes batteries, quelle que soit la manière que ce soit.
Eh ben merci de le poser comme ça. J'espère que le message sera passé aux autres daronnes. Comment ça se passe aussi avec ton conjoint? Est-ce qu'avoir un enfant jeune, ça permet d'éviter le baby clash? Est-ce que le changement se fait de manière plus smooth? Est-ce que la répartition des tâches, c'est quelque chose de plus facile? Comment ça s'est passé, c'est arrivé? Comment ça s'est passé l'adaptation pour que chacun prenne sa part et chacun ait son espace? Est-ce qu'il y a des sujets un peu de friction? Comment ça se passe?
Je pourrais pas te dire si ça se passe différemment parce que, j'en ai pas eu d'autres, tu vois. Enfin, je suis dans la, alors par rapport à ce que j'entends, mais après, entre ce qu'on entend et ce qu'on vit, il y a toujours une différence. Après, je pense que, il y a de la fatigue dans tous les cas. Après, l'avantage quand t'es jeune, c'est que t'es en construction aussi. Et je pense que c'est aussi ça qui est plus facile, c'est que comme t'es encore en construction, tu t'adaptes plus facilement peut-être à certaines situations. Tu vas plus facilement, pas forcément réussir à adapter ton discours parce que t'es fatigué, y a de la temps, c'est normal, c'est humain. Quand t'as pas dormi depuis 3 mois, t'as pas dormi depuis 3 mois, quel que soit ton âge. Alors peut-être qu'à 21 ans, tu vis mieux de pas avoir dormi depuis 3 mois, mais ça reste fatigant pour tout le monde. Après, c'est juste une adaptation et juste apprendre à dire, je peux plus. En fait, faut que tu prennes le relais. Ou là, c'est bon, je peux un peu plus. Vas-y, tu peux aller te poser. Et c'est aussi s'adapter. En fait, le problème, je pense que quand t'as un enfant, quel que soit ton âge, en fait, c'est que l'enfant évolue encore plus vite que ce que toi tu vas évoluer. Donc, quand tu vas dire, j'ai enfin mis en place une routine qui fonctionne pour nous, l'enfant va dire, je vais sortir une dent. tu vois ce genre de situation. Et là, faut tout reprendre. En fait, je pense que l'avantage quand t'es jeune, c'est que tu peux plus facilement tout reprendre. Parce que justement, t'es encore en construction toi aussi, et donc tu vas plus facilement, dire là l'enfant change, moi il faut que je change, mais en même temps j'ai quand même envie de garder ce lieu de décompression qui est une relation, quoi. C'est pas censé être un sujet de stress non plus, quoi.
Exactement. La famille, la relation de couple, ça doit être un espace cocooning. Si c'est pas l'espace où tu peux être le plus toi-même, pouvoir le plus lâcher un peu la pression, effectivement, je suis d'accord, il y a quelque chose qui coince, quoi. Et est-ce que tu as l'impression que vous avez eu le temps de vivre à deux ce que vous avez envie de vivre à deux, ou est-ce que vous avez encore l'espace de le faire? Est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez faire tous les deux?
Ouais, ça, je pense que c'est un mythe, dans mon expérience en tout cas, c'est un mythe de dire que si tu as des enfants jeunes, t'es que des parents, t'es pas un couple. Forcément, il y a des périodes où tu vas être que des parents et pas un couple, et c'est normal, ça arrive à tout âge. Comme dit, l'enfant apprend à marcher, l'enfant, sort une dent, forcément, là, tu vas être plus parent que couple. C'est normal. Mais je pense qu'après, nous, on a eu l'expérience du Covid dans 20 mètres carrés, du premier confinement dans 20 mètres carrés. On a pu développer une relation qui est aussi particulière et qui a été boostée, entre gros guillemets. Mais après, oui, il y a toujours des projets. Et justement, je pense que c'est l'avantage qu'on a de l'âge, c'est qu'on a plein de projets, on a plein de volonté pour l'avenir, plein d'idées aussi de ce qu'on veut faire, et c'est des fois un écueil, j'ai envie de dire, dans le sens où t'as tellement de possibilités que tu sais pas trop quoi faire. Là, ces temps-ci, c'est un peu la question que je me pose pour ma vie universitaire, mais c'est quand même aussi positif parce que justement, toutes les portes sont encore ouvertes. On a 22 ans, on a la capacité encore de faire tout ce qu'on veut.
Alors du coup, tu voudrais faire quoi? Ça serait quoi l'avenir? Comment tu vois la suite? C'est quoi vos grands projets, vos grands rêves à toi, à ton mec, avec ton kids ou individuellement?
enfin le un, après on a des projets aussi qui sont familiaux, du style avoir une maison qui sont un peu traditionnels, j'ai envie de dire avoir une maison avec un jardin pour que le kid puisse jouer même s'il pleut, même si on n'a pas les nages dehors ou quoi. Ça va être voilà des idées de voyage parce qu'on est hyper curieux des cultures tous les deux. Et moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais jeune. Et c'est un peu aussi mes axes de recherche, travailler sur des territoires qui sont plus éloignés. Donc, c'est ça qui nous intéresse, des projets voilà de voyage, d'expérience, j'ai envie de dire. Pas forcément des projets matériels, mais des projets d'expérience. Et après, moi, point de vue perso, ça va être aussi le développement de mon entreprise, la réalisation d'un doctorat dans le domaine des sciences politiques, des relations internationales, qui me permettra aussi pas mal de voyages et pas mal d'expériences. Et j'essaye de pas avoir non plus des rêves trop spécifiques, enfin des objectifs trop spécifiques, parce que dans mon expérience, ça m'a beaucoup limité en fait d'avoir des rêves hyper spécifiques. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire l'ENA par exemple, et j'ai failli faire une filière qui m'intéressait pas du tout juste pour faire ça. Et je pense que justement avoir des idées globales de ce qu'on veut faire à quelques années, c'est bien. Avoir des idées d'un style de vie qu'on aimerait, c'est important aussi. Mais dire, par exemple, là, je serais incapable de se dire, par exemple, dans 10 ans, je veux travailler pour l'ONU ou je veux travailler pour telle ou telle institution, parce que je sais pas forcément. En fait, moi, je sais ce qui me passionne, je sais ce qui m'intéresse, je sais dans quoi je veux poursuivre. Et après, je sais que ça mènera forcément quelque part d'hyper intéressant. Enfin, quand je vois que quand je suis rentrée à Sciences Po, j'avais eu le bac avec une très bonne mention, j'avais une excellente moyenne, et première année de Sciences Po, j'ai eu 10 tout pile de moyenne. Et si tu m'avais dit en première année de Sciences Po que je validerais mon master 2 avec mention, avec 15 de moyenne, avec un kid, un mec dans une ville que j'aime beaucoup, en étant chef d'entreprise et tout, je pense que j'y aurais pas cru. Et si je m'étais mis comme rêve de faire l'ENA, j'aurais pas eu toutes ces choses là parce que les concours de circonstances qui a fait que j'ai rencontré mon copain, il serait pas arrivé parce que j'aurais été à une conférence ce soir-là et que j'étais pas et que j'ai rencontré mon mec en fait. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et je pense qu'avoir quelque chose de trop marqué, ça nous parque un peu aussi dans un chemin et c'est pas forcément quelque chose que je veux pour l'instant.
C'est très vrai ce que tu dis, puisqu'en réalité, de toute façon, je crois que personne peut définir à 10 ans où il sera dans sa vie. Pour moi, c'est de l'ordre de l'impossible. Par contre, ce qu'on peut définir, c'est ce qu'on a envie de vivre, c'est les valeurs qu'on a envie de porter, c'est le quotidien qui nous fait vibrer, sans que ça soit rigide. Mais de se dire, voilà, comme tu le dis, j'aimerais voyager, aller à la rencontre d'autres cultures, j'aimerais poursuivre dans ce métier, enfin dans cette filière de relations internationales qui me plaît particulièrement. Et à partir de là, en fait, le chemin va se tracer et il y aura une multitude d'obstacles et d'opportunités qui vont faire que il y aura des choix à faire à chaque fois, parce que à chaque obstacle qu'on rencontre, il y a une infinité de solutions. Et finalement, la solution qu'on va prendre, c'est celle qui va nous aider à aller dans la direction de ce qu'on veut vivre.
Ouais, c'est ça. Et puis, quand j'étais plus jeune, enfin, je pense que si ma mère, ma sœur ou plus largement ma famille écoutent ce podcast, ils m'ont beaucoup rigolé parce que quand j'étais plus jeune, justement, j'avais cette vision de, enfin, je me souviens d'une fois où ma sœur est rentrée dans ma chambre et j'étais en train de faire mon plan de vie sur 10 ans. J'avais 15 ans, d'accord, à cette époque-là. Et je trouve que justement, ça me faisait pas vivre dans le présent parce que je me disais l'étape d'après. Alors que maintenant, je kiffe ce que je fais maintenant. Je connais l'étape d'après pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans. Mais je sais pas ce que je vais faire après. Et donc, c'est vachement plus intéressant parce que j'apprécie beaucoup plus le moment que je passe. Et justement, j'y accorde beaucoup plus d'importance parce que je sais pas où je serai dans 5 ans. Et si ça se trouve, j'aurais dit, ce que je fais, ça m'intéresse plus ou ce que je fais est trop compliqué à tenir psychologiquement. Donc, je veux me reconvertir. Et c'est OK. Genre, faut juste pas mettre autant de pression sur le futur parce que le futur n'est pas vraiment dû, en fait, au final.
Tout à fait. Et alors, du coup, dans ton plan de vie, le kids devait arriver quand ?
Jeune. Il n'y a jamais eu de doute. J'ai toujours voulu être une maman assez jeune, justement pour tous les avantages, en fait, que j'ai cités. D'avoir plus d'énergie, de grandir quelque part avec lui en étant grand quand même, en étant mature, etc. Pas dire on est un enfant dans sa tête et on a un enfant, ça, je suis pas du tout d'accord avec, mais d'évoluer aussi et d'être peut-être plus flexible aussi sur certains points. Donc j'ai toujours voulu être une maman très jeune. Très jeune. Comme dit, je n'avais pas 15 ans, mais dans la société dans laquelle on vit actuellement, ça reste jeune.
Surtout en études, c'est quand même une situation qui est pas hyper courante. Tu dirais que ça a transformé quoi en toi, la maternité ?
Est-ce que je peux dire tout ? En fait, c'est les évolutions que ça m'a forcé en fait à faire, ça va être d'un point de vue laisser aller. En fait, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis en général sur le fait que le laisser aller, le laisser faire, etc. De lâcher prise, c'est une injonction de plus. Et je suis tout à fait d'accord. C'est une injonction de plus. Mais quand on y arrive, c'est quand même vachement cool. Et je dis pas que je lâche prise en permanence. Je dis pas qu'il y a pas des moments où je suis agacée parce que le kid se comporte pas exactement comme j'ai envie. Mais je pense que ouais, j'ai plus ce lâcher prise maintenant dans le sens, bah écoute, tu veux faire ça, bah est-ce qu'il y a une en fait souvent je me pose la question, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je t'interdirais de faire ça? Oui, non. Bon, s'il y en a pas, vas-y, au pire tu nettoieras après quoi. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout avant. Avant c'était vraiment il faut que tu fasses comme les pédiatres et tout recommande. Alors, quand je dis ça, je dis pas il va pas faire des trucs dangereux, il va pas passer 8 heures devant la télé toute la journée hein, c'est vraiment voilà, mais en même temps, je me laisse un peu plus de flexibilité et surtout je pense que en fait c'est un double élément qui m'a permis d'arriver là, c'est mon kid mais aussi les études que je fais qui sont spécialistes enfin où je fais pas mal de psychologie de l'enfance et voilà, ouais, c'est la conjoncture des événements qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai plus ça, ce lâcher prise, et aussi ce recul sur certains trucs de ma vie aussi, sur certaines expériences, etc.
Ouais, et puis au final, le lâcher prise, c'est tout ce que t'as décrit avant. C'est là où je décide de mettre mon énergie, là où je décide de mettre des priorités, parce que finalement, si je décide d'un cap, bah, je renonce finalement assez facilement à un autre cap, parce que je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais. Donc il y a des choses sur lesquelles je lâche prise, parce que j'ai pas besoin de mettre mon énergie à cet endroit-là, et c'est ok. Si t'es là à serrer les dents, mode, faut que je lâche prise, tu peux être sûr que ça va pas hyper bien lâcher.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, justement, j'étais grave dans cette vision-là avant. Je dirais, ben, jusqu'au un an de mon kid, dans cette vision, il faut que je fasse tout bien, mais en même temps, il faut que j'ai du temps pour moi, et en même temps, il faut que j'ai des bonnes notes, et en même temps, il n'y a pas de en même temps qui tienne, en fait. C'est pas possible. Il y a que 24 heures dans une journée, peu importe qui t'es. Et, maintenant, c'est moi. Et maintenant, je lâcherai pas prise, en fait, si j'en ai pas l'énergie.
Tu voudrais transmettre quoi à ton fils?
C'est une bonne question. Je pense que l'une des valeurs les plus importantes, selon moi, c'est l'humanisme, dans le sens la tolérance et le respect envers tout le monde, et peu importe qui, peu importe quoi, etc. Mais en même temps, savoir aussi s'imposer d'une manière respectueuse, mais ne pas se laisser marcher sur les pieds. Je pense que c'est assez important et d'avoir des idées. En fait, je pense que je suis quelqu'un de très têtu et j'ai beaucoup d'idées très arrêtées sur certains points. Et je pense que c'est quand même une force parce que justement, ça me permet de faire toutes ces casquettes-là parce que je sais ce que je veux, je sais pourquoi je l'ai fait. Et je pense que c'est une valeur que j'aimerais bien que mon fils ait on respecte les gens, mais en même temps, on se laisse pas marcher sur les pieds. Et ouais, je pense que c'est ça. Après aussi, enfin, qu'il soit fier aussi de ce qu'il fait. C'est quelque chose qui est important. Peu importe ce qu'on fait, il faut être fier et faut. Ben, je pense que l'un bon indicateur, c'est si t'es capable de parler des heures de ce que tu fais dans ta vie. Ben, t'es bien dans ta vie, je pense.
Et ça, toi, t'as l'impression que c'est les valeurs que tu portes et que t'incarnes au quotidien?
Dans l'ensemble, ouais, je pense. Après, forcément, je suis encore, comme dit, je suis encore étudiante. Donc, des fois, ne pas se faire marcher sur le pied, des fois, c'est pas forcément la chose la plus facile parce que, hiérarchiquement, il y a toujours des personnes qui sont au-dessus de toi, etc. Mais savoir dire non, savoir se faire respecter et aussi se faire respecter son énergie. De savoir dire non, justement, on revient sur ce point-là, mais dans l'ensemble, je pense que ouais, c'est des valeurs que j'incarne, mais au quotidien, et même dans ce que je produis, enfin, dans mon entreprise, c'est des valeurs. Enfin, j'accepte, ça m'est arrivé de refuser des clients parce qu'ils étaient pas assez respectueux. Et ça m'est arrivé aussi de dire non à certains projets au niveau de ma vie universitaire parce que ça allait pas dans mon sens ou dans la vision ou dans les thèses que je supporte en fait d'un point de vue scientifique entre gros guillemets. Il y a des choses que je porte sur les thèmes que j'étudie et je refuse certains projets qui pourraient m'apporter beaucoup mais qui ne vont pas dans leur sens. Et des fois ça peut être même de l'aspect financier, je vais refuser parce que la thèse qui est promue par tel ou tel think tank par exemple ne va pas aller dans le sens que je soutiens.
Justement là, la suite pour toi c'est si j'ai bien compris un doctorat, c'est ça?
C'est ça, un deuxième master sans doute et par la suite un doctorat pour être enseignant chercheur dans les universités françaises. Je suis spécialiste je me suis dit tout ce qui est conflit armé, donc c'est pas forcément des thèmes très joyeux. Je suis spécialiste surtout des enfants, donc c'est pas forcément des thèmes qui sont très joyeux, mais c'est des thèmes qui sont assez peu finalement traités d'une manière scientifique. c'est souvent traité par les journaux, etc., mais qui est très peu traité, et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et donc, c'est une thèse sur la protection internationale des enfants soldats. Moi, je travaille notamment sur l'Afrique et le Moyen-Orient.
Et ça, justement, ces sujets-là, comment cette vie pro, finalement, impacte ta relation avec ton enfant? Parce que quand je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais j'imagine que tu vois des choses vraiment, ou tu lis des choses, tu travailles sur des sujets vraiment intenses. Comment tu coupes avec ton quotidien? Comment tu ne deviens pas super angoissé par rapport à ton propre fils, quoi?
Après, justement, je travaille sur des choses qui sont, ouais, comme tu dis, qui sont vraiment atroces. Hein. Ce matin, je rédigeais un petit peu et ouais, c'était vraiment pas rigolo. Mais en fait, déjà, je me dis que le contexte n'est pas du tout le même. J'étudie des conflits armés ouverts, notamment tout ce qui va être terrorisme armé, etc. Et c'est des choses sur lesquelles on n'est pas confronté en France, à Strasbourg. Donc déjà, il y a ce point d'ancrage de « c'est pas notre vie », tout simplement, actuellement. Et puis, j'ai cette capacité qui est assez géniale de, quand je me mets à travailler, je coupe plus ou moins une certaine partie de mon cerveau, qui fait que quand je travaille, j'analyse, etc., mais je ne remets pas ma vie personnelle dessus. Et donc, comme je mets pas ma vie perso sur ce que je fais, sur mes études, eh ben, je mets pas ma vie pro sur mes études. Alors oui, je pense à mon mémoire des fois quand je suis avec mon kid, mais je vais pas me rappeler d'un détail sordide d'un témoignage que j'ai lu. Je vais à la limite réfléchir à certains trucs, etc. Mais je vais pas. J'ai jamais vraiment eu ce report entre guillemets de ce que je lis. Après, forcément, il y a forcément des moments. Par exemple, quand tu vas lire des statistiques de poids ou de taille, ben, tu dis mon fils, il fait le même poids qu'un gamin de 4 ans dans un camp, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Mais tu vas le faire d'une manière qui. Enfin, moi, j'arrive à le faire d'une manière, en tout cas, qui reste pas trop malsaine, et justement j'arrive beaucoup à dissocier, et je prends le temps aussi, les situations que j'étudie moi ne sont pas reproductibles sur ma vie perso. C'est pas, enfin ça me semble pas possible actuellement, et ça fait que ça me permet aussi d'un petit peu dissocier, d'arriver à analyser des phénomènes, parce que justement je suis pas forcément en plein dedans. Parce que typiquement mon gamin à 15 ans, il y a très peu de chances qu'il là, il rejoindre un groupe armé, tu vois.
La probabilité est effectivement assez faible. Par contre, il y a une autre probabilité, on va partir sur un truc un peu plus léger, c'est que dans 16 ans, donc là, il a 2 ans et demi, dans 16 ans, 16 ans et demi, il débarque et il te dise « ma copine est enceinte ». Tu dis quoi?
Je prends le temps d'analyser l'information avant de dire quoi que ce soit, je pense, parce que la réaction épidermique ne peut faire plus. Peut ne pas forcément être nécessaire. Après, ça dépend aussi la situation. Ça va dépendre s'il est en études, s'il travaille, enfin ses projets et tout, la relation qu'il a avec sa copine. Enfin, en fait, ça va dépendre de pas mal de trucs. Et je pense que j'essaierai de réagir comme mes parents ont réagi finalement, en mode ok, et là tu vas faire quoi. Enfin, d'un point de vue assez factuel. En donnant un peu son point de vue, mais en même temps, c'est ta vie, quoi. Donc, je suis là pour t'aider, mais c'est ta vie. Donc, tu prends tes décisions, t'es adulte, tu te débrouilles, mais tu prends tes décisions et je t'accompagnerai si là où il y a besoin, quoi.
Ah, parce que finalement, c'est ça que tes parents ont fait pour toi, c'est de dire c'est ta vie et la décision que tu prends, tu vas l'assumer. T'es responsable, c'est pas on va faire à ta place.
C'est ça. Après, je pense que j'étais majeure quand même. Donc, s'il a 17 ans, la situation ne serait pas forcément la même. Mais je pense que c'est ça. C'est on va t'aider à faire. Tu prends la décision et par contre, tu feras les conséquences. Et après, mes parents m'ont fait promettre aussi de finir mes études.
Parce que c'était potentiellement une option pour toi d'arrêter tes études.
Ça m'a même pas traversé l'esprit 15 secondes. J'ai toujours voulu faire Sciences Po depuis genre j'ai 12 ans, je veux faire Sciences Po. J'ai eu du mal à y rentrer, j'y suis rentrée et j'ai tout ça, je suis passionnée en fait. Donc je suis passionnée d'apprendre et c'est là que la limite peut être assez problématique dans le sens où des fois dans mon temps de détente, je vais écouter un podcast. Qu'est-ce qui est détente, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça c'est un problème, mais c'est ma passion en fait. Donc il y avait jamais eu la question d'arrêter mes études, ça s'est même pas posé et comme dit là, je veux faire un doctorat, donc je repars encore pour 5 ans quoi.
Si on devait résumer tout ça, au quotidien, c'est quoi tes plus grands challenges et tes plus grands kiffs?
Alors, j'ai envie de dire que mes plus gros kiffs au quotidien, c'est la manière dont j'ai réussi à maintenant tout conjuguer. Et j'ai vraiment une vie super cool, je trouve. Je travaille plus ou moins quand je veux parce que j'ai une bonne organisation qui fait que J'ai un kid qui est super agréable, avec qui est hyper drôle et tout, donc avec qui on passe de bons moments. Quand je suis avec mon kid, donc je travaille pas. Donc les week-ends, j'allume pas mon ordi, par exemple. Donc ouais, j'ai une vie plus ou moins qui est trop bien. Enfin, j'étudie des trucs trop intéressants. J'accompagne des personnes, notamment des femmes, qui ont des parcours hyper intéressants aussi. J'ai un kid super. Enfin voilà. Et le challenge, c'est de quand même me laisser ma place. J'ai minimum une heure pour moi par jour, mais des fois cette heure-là, elle se tourne très facilement en juste regarder une série Netflix. Et voilà, c'est peut-être mon plus gros challenge, des fois de juste pas allumer Netflix et de prendre un vrai temps pour moi. Mais sinon, je pense que ouais, c'est franchement quand je vois mon parcours depuis 2 ans et demi, c'est assez impressionnant, je trouve, comment j'ai réussi justement à me défaire de beaucoup de diktats et de rentrer dans des chaussures qui me correspondent et qui me vont.
Bah, c'est même très impressionnant. Tu trouves ça assez impressionnant? Moi, je trouve ça dingue parce que j'aurais adoré avoir cette maturité et cette vision à 22 ans. Moi, je trouve ça très impressionnant et tu peux être très très fier de toi. Je pense que tu l'es, tu as bien raison. Et je pense que ta famille l'est et elle a bien raison. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer aux darons étudiantes? Aux darons pas du tout étudiantes, qui pour toi est vraiment important et qui résume justement comment on peut atteindre cet équilibre et comment on peut kiffer pleinement sa vie sans la subir. Tu vois, moi, tu l'as dit, en fait, peu importe qui t'es, t'as 24 heures dans une journée et en fait, t'as que 24 heures dans une journée. Donc, comment on fait pour pas les subir ces 24 heures, pas les traverser dans la douleur et que ça soit un moment de plaisir, même si c'est pas toujours le giga plaisir. Il y a des fois où, oui, il y a des trucs relous. Mais comment globalement ça peut être le kiff?
Mais je pense que c'est pas forcément facile d'y arriver et ça reste une chance de pouvoir le faire, mais de savoir pourquoi on fait les choses et faire des choses qui nous font kiffer. Alors c'est souvent, c'est une chance de pouvoir faire ça, de pouvoir faire quelque chose qu'on choisit. Mais je pense que c'est très important et de savoir pourquoi on fait et de faire les choses pleinement et en étant en pleine conscience, c'est-à-dire ne pas faire la vaisselle en jouant avec le kid, quoi. C'est-à-dire prendre le temps de faire la vaisselle et après prendre le temps de jouer avec le kid. Pour être pleinement là et pour ne moins se fatiguer et donc avoir plus d'énergie. Et savoir pourquoi on fait les choses, bien évidemment, pour être aligné avec ses valeurs et ce qu'on fait. Quoi.
Il y a plein de choses dans ce que tu dis. Il y a effectivement connaître ses valeurs, connaître ce qui nous fait vibrer et décider de le faire et aussi décider d'être dans le présent, ce qui n'est pas évident, de ne pas multitâcher dans tous les sens. Et donc je te pose la question que je pense tout le monde se pose. Y aura-t-il d'autres kids?
Pour l'instant, je sais pas, peut-être. Pas tout de suite, parce que c'est voilà, pour être pleinement présent, il faut en avoir la capacité. Et là, je suis à 97%, donc si on en rajoute un kid à 50%, 140, c'est pas bon, les calculs sont pas bons. Mais potentiellement par la suite, dans quelques années, ouais, pourquoi pas. Pas tout de suite, le temps que voilà, on apprécie cet équilibre retrouvé aussi, qu'on prenne le temps d'apprécier, qu'on se replonge pas tout de suite la tête dans le guidon, etc.
Tu dirais que t'as mis combien de temps à sortir la tête du guidon?
Je pourrais pas vraiment te donner de chiffres, de mois ou quoi, parce que en fait je l'ai sorti, puis je l'ai remis, puis je l'ai sorti. Je pense que ça a été assez un parcours en montagne russe là les 2 dernières années, 3, parce qu'on peut compter la grossesse quand même. Mais je pense qu'il y a eu une période de très bonne accalmie autour des 8-15 mois du kid. Après ça a été redevenu un petit peu compliqué. Mais je dirais que ouais, au bout de 8 mois, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau et je l'ai finalement ressorti assez récemment finalement. Une fois que j'ai créé mon entreprise, justement, je me suis dit je peux pas incarner des valeurs et donner des conseils à des personnes si je fais pas ce que je dis en fait, ça va pas fonctionner. Donc je me suis remise au centre de ma vie il y a quelques mois. Et je dirais depuis ce moment-là où aussi j'ai eu des réveils perso qui m'ont dit maintenant stop, maintenant c'est ta vie et tu peux pas la vivre à côté, quoi. Mais donc ça a mis je dirais le mieux ça a été au bout d'un an, et puis après le vrai mieux ça a été au bout de deux ans.
Est-ce que t'as réussi à te mettre des garde-fous à toi-même, de te dire ok, là je sens que je suis en train de rebasculer, je sens que je me remets la tête dans le guidon, stop?
C'est une hyper bonne question, justement j'y réfléchissais hier. C'est assez difficile finalement, parce que justement quand tu plonges, c'est assez doux en fait. tu t'en rends pas compte. Et puis souvent, c'est parce que tu bosses sur des projets qui te passionnent, donc t'as pas l'impression de bosser en fait. Surtout que j'ai souvent ce problème-là de je suis tellement passionnée par ce que je fais que je m'y arrête pas. Mais je le sens, je commence à beaucoup plus m'écouter et notamment en prenant plus de temps off, pas à scroller par exemple ou quoi, mais juste à marcher ou à faire quelque chose où j'ai pas d'écran et donc où mes pensées parasites peuvent rentrer. Et c'est à ce moment-là que je vais écouter, ouais. Mais souvent, quels sont les... J'ai pas vraiment de garde-fou, mais ça va être... En fait, mon principal garde-fou, ça va être d'avoir de l'avance sur mon travail. Ça peut sembler un peu bizarre comme ça, mais en fait, ça permet de pouvoir prendre un jour off dès que tu veux, dès que t'as besoin. Dès que tu ressens l'envie, dès que tu ressens le besoin. La dernière fois, ben, un vendredi, j'étais fatiguée, ben, j'ai dormi toute la journée. Et j'ai pas du tout culpabilisé parce que je savais que j'avais suffisamment d'avance et que juste, je ne pouvais plus travailler parce que j'étais fatiguée. Après, il faut aussi savoir les symptômes physiques qu'on a quand on commence à se remettre la tête dans le guidon, la fatigue, etc. Et quand on sent ces symptômes physiques, de dire « Ok, de toute façon, si je suis cramée, j'avancerai pas plus que si je travaille là maintenant. Donc, stop. »
Ah, je suis assez d'accord. Il faut être à l'écoute de son corps et de ses pensées, parce qu'assez souvent, parce que je remarque chez moi et je remarque aussi chez les autres darons, c'est qu'on a tous nos petits mécanismes. Moi, par exemple, c'est quand je commence à avoir une tension dans l'épaule, je sais que là, je me suis mis trop de pression. Quand je commence à plus avoir envie de faire les choses, alors que j'adore le club des darons, mais quand je commence une journée en me disant « Oh là, j'ai pas envie », j'ai manqué d'espace, j'ai manqué de temps pour moi, j'ai manqué de recharger mes batteries, et je sais aussi que je me remets en mode stress. Quand les trucs que j'aime bien et qui me font descendre le stress, je veux plus les faire. Typiquement, moi, c'est le yoga. Et je sais que quand je veux plus y aller, c'est qu'en fait, je suis en état de stress, et ce truc qui pourrait me faire descendre, ben, je l'évite. Donc là, c'est les signaux et c'est important d'avoir ces radars-là pour se dire oh, « Ok, là, ça repart un peu en cacahuète. Il faut que je ressorte de cette dynamique. »
Ouais, je suis d'accord à 100% avec toi.
Eh bien, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te remercie beaucoup pour ton partage. Je te l'ai dit plusieurs fois pendant l'échange, mais je trouve incroyablement inspirant, qui rend humble finalement. Parce que toi, tout ce que tu as acquis et compris, déjà à 22 ans, bah ça y est, c'est acquis et c'est compris. J'ai hâte de suivre la suite de tes aventures, de ton doctorat, de ton entreprise. Je te remercie pour tout ça et je te souhaite une bonne journée.
Merci à toi.
Cet épisode est terminé. Merci encore à Tania pour son témoignage, ses partages, ses réflexions et pour toute l'inspiration. Parce que je ne sais pas toi, Daron, qui m'écoute, mais moi j'ai été très impressionnée par ce parcours. Avant de quitter cet épisode et de retourner à ton quotidien, n'oublie pas de me laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de ton choix. Ces notes m'encouragent et permettent de donner de la visibilité et de faire découvrir ce podcast à toutes les daronnes. Merci à toi qui prends le temps de le faire, ça compte beaucoup pour moi. Merveilleuse journée à la plus incroyable des daronnes et à très vite dans un prochain épisode.
My chest melody, my new groove, mother confidence, in every